Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce débat vidéo sur Mediapart. Aujourd'hui, nous allons parler de pesticides et nous allons nous poser la question pourquoi n'arrivons-nous pas en France à diminuer encore drastiquement l'usage des pesticides? Pour en parler, autour de moi, trois personnes. Jean-Noël Jouzel, bonjour.
Bonjour.
Jean-Noël, vous êtes sociologue, rattaché au CNRS, chercheur au CNRS, et vous êtes l'auteur de ce livre paru récemment, « Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait ?». Donc c'est à ce titre que je vous ai invité aujourd'hui. Et puis avec nous également à distance, Caroline Faraldo. Caroline qui est experte à la Fondation Nicolas Hulot, fondation qui a sorti également récemment un texte intéressant, un travail très intéressant qui est ce rapport sur la réduction des pesticides. Pourquoi un tel échec, pose comme question la Fondation Nicolas Hulot. Et puis avec nous également Fabrice Chaboch. Fabrice, vous êtes agriculteur dans la Beauce et vous cherchez à faire évoluer les pratiques, notamment quant à l'usage des intrants et des pesticides en agriculture. Alors, pour commencer, on va faire un premier tour de table et je vous propose en fait à tous les trois la même question. Quel est, d'après vous, le frein principal aujourd'hui en France à la baisse de l'utilisation des pesticides en agriculture, sachant que l'utilisation des pesticides a encore augmenté ces dernières années? Et d'après les chiffres que j'ai pu consulter sur le site du ministère de la Transition écologique, entre 2009 et 2017, par exemple, les ventes de pesticides ont encore augmenté de 25%. Alors peut-être pour commencer là-dessus, Caroline Faraldo, votre analyse en quelques mots pour un premier tour de table.
Merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, sur la question de la réduction des pesticides, juste rappeler que l'objectif qu'on s'est fixé collectivement au lendemain du Grenelle de l'environnement était de réduire, de diviser par deux l'utilisation des pesticides, et on en est loin, comme vous avez pu le dire. On pourra reparler des chiffres puisqu'il y en a plusieurs, mais on est plutôt sur une tendance d'augmentation plutôt que de réduction. Et c'est vrai qu'il y a depuis un an, on se pose la question, mais pourquoi un tel échec, comme vous l'avez dit? Et si les raisons sont diverses, on pourra en reparler, des raisons qui peuvent être agronomiques, des raisons qui peuvent être climatiques, de résistance également aux pesticides qui peuvent se développer. On a également constaté par cette étude d'un frein économique. On ne met pas forcément, on n'a pas mis depuis 10 ans dans les cas des politiques publiques structurelles, on va dire, un accompagnement et une incitation et un accompagnement économique, un climat économique et financier propice à la transformation des systèmes agricoles.
D'accord, donc peut-être pas assez d'argent public pour effectivement baisser l'usage des pesticides. Fabrice Chaboch, quelle est votre analyse là-dessus?
Sur les freins, ils sont multiples. Je pense que le consommateur est prêt. L'agriculteur, je peux vous le dire, pour les côtoyer beaucoup dans des groupes, est prêt également. Et puis, autour de moi, justement, dans ces groupes, on a quand même beaucoup d'expériences avec des diminutions qui sont assez importantes. Et c'est vrai que les chiffres qu'on vient d'évoquer sont assez surprenants. Après, bon, il y a sans doute des raisons qui sont technique, on pourra y revenir, mais moi ce qui me rassure, c'est que autour de moi je vois vraiment un terrain propice à cette diminution, et une diminution certes au départ limitée, mais qui dans un changement de modèle, et je parle pas d'agriculture biologique forcément, dans un changement de modèle de système est propice justement à cette réduction. Donc c'est le moment peut-être. Alors, si c'est un manque d'argent public, d'animation et de pédagogie, je peux vous assurer que les gens sont prêts. Voilà. De plus en plus, en tout cas.
D'accord. Donc, des agriculteurs prêts, peut-être du travail à faire sur la pédagogie. Jean-Noël Jouzel, vous, quelle est votre interprétation?
Je pense que ce que disent Fabrice et Caroline est exact. Hein. Peut-être pour compléter un peu ce qui me frappe aussi, moi, c'est la difficulté à faire passer en politique ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, que ce soit en matière de santé publique, sur les liens entre pesticides et santé humaine, ou en agronomie, hein, sur les systèmes alternatifs. Ça reste des savoirs qui sont de plus en plus solides et bien constitués, mais dont la prise en compte politique reste limitée et difficile.
Et justement, c'était là-dessus également que je voulais vous interroger, Jean-Noël, parce que c'est l'objet de votre livre, en fait, les freins à la connaissance et surtout pourquoi cette connaissance n'arrive pas toujours à l'oreille des politiques. Souvent, elle reste limitée au cercle des scientifiques. Vous parlez de données gênantes, notamment dans votre livre. Donc, un travail scientifique qui est déjà assez élaboré et puis un constat qui est unanimement partagé par les scientifiques sur l'aspect dangereux de ces produits. Mais ensuite, ça ne va pas forcément jusqu'au bout en termes de politique publique et puis également en termes de connaissances sociétales. Vous dites également que ça n'est pas forcément le résultat de manipulation du secteur phytosanitaire, ce qu'on écrit quand même assez souvent, mais que ça peut être aussi lié à des freins structurels. Il y a une cécité structurelle, en quelque sorte, ce que vous dites dans votre livre, qui fait que la connaissance est bloquée quelque part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Ouais, bah, cet argument-là, je pense, il est lié à, c'est un argument historique, en fait. C'est lié à l'histoire du contrôle des pesticides. C'est des produits dangereux par définition, hein, et donc qui font l'objet d'un contrôle d'État qui est ancien. C'est pas depuis 10 ans, depuis 20 ans qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques de santé ou d'environnement qui sont liées aux pesticides. Évidemment, c'est très ancien. Il y a des textes qui remontent au 19e siècle qui déjà cherchent à encadrer l'usage des pesticides en agriculture. Et puis, dès 1943, en France, il y a une autorisation de mise sur le marché. Donc ça remonte à loin. Mais cette histoire-là, c'est une histoire aussi d'une forme d'alliance entre science et politique qui est passée par une affinité très forte entre un type de connaissance, la connaissance toxicologique, donc acquise en laboratoire, substance par substance, sur chaque pesticide et les effets qu'ils peuvent avoir sur des rats et des souris, et un modèle de contrôle politique qui passe par l'accès au marché. C'est-à-dire il s'agit de déterminer quels sont les produits qui peuvent être commercialisés et à quelles conditions. Les savoirs gênants dont il est question dans le livre, ils ont une autre origine, ils viennent plutôt de l'épidémiologie, donc une discipline très différente qui fonctionne par questionnaire auprès des populations exposées et qui produit des résultats qui sont peu compatibles avec ce schéma d'action publique, procédant substance par substance, produit par produit, puisque les épidémiologistes montrent assez bien que l'exposition aux pesticides, notamment professionnelle, et l'exposition aux pesticides en général, induit c'est un facteur de risque d'avoir des pathologies chroniques, comme la maladie de Parkinson ou des cancers du sang.
D'accord. L'épidémiologie, juste pour qu'on soit bien clair, donc ça procède plutôt par cohorte, c'est ça?
Il y a plusieurs méthodes, hein, cohorte, études cas témoins.
Mais pas produit par produit, en tout cas.
Voilà, c'est l'application du raisonnement statistique à l'état de santé des populations. Donc on prend une population, par exemple des travailleurs exposés aux pesticides, et on essaye, par différentes méthodes, de voir s'il y a un lien entre l'exposition aux pesticides et la survenue de certaines pathologies. On voit que oui. Mais on voit que oui, pour une population qui est exposée en général aux pesticides, ou qui est exposée éventuellement à des grandes familles de pesticides, mais pas à des produits précis. Enfin, c'est très difficile de produire des données à l'échelle de la substance précise, parce que les populations exposées sont trop petites pour parvenir à la puissance statistique qui est vraiment l'alpha et l'oméga des données épidémiologiques. Voilà, donc c'est même sans manipulation des industriels, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manipulation, qu'elle n'existe pas. Hein. Mais il y a un problème structurel qui est lié à cette difficulté de tenir compte dans les politiques publiques telles qu'elles sont construites historiquement de contrôle des pesticides, des données épidémiologiques.
Il y a aussi le rôle des agences d'évaluation et qui est régulièrement contesté, notamment au niveau européen. Il y a l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments. On en parlait d'ailleurs récemment dans Mediapart. On a écrit un article au sujet de produits toxiques que cette agence ne repérait pas dans les pesticides. Et puis en France, il y a évidemment l'ANSES, et dont les publications également sont régulièrement contestées. Est-ce que, là aussi, il y a un problème, en fait, dans l'évaluation des produits, dans les autorisations de mise sur le marché ?
Alors, oui, ça, je pense que des problèmes, il y en a, en effet. Ils sont liés, encore une fois, au fait que toutes les connaissances disponibles ne sont pas prises en considération au mieux dans l'autorisation de mise sur le marché. Encore une fois, on sait plein de choses sur les pesticides. Hein. Il ne faut pas imaginer que c'est des produits dont on découvre qui sont potentiellement dangereux. Mais l'essentiel de ce qui est utilisé comme connaissance pour l'autorisation de mise sur le marché, c'est des connaissances toxicologiques. Alors pourquoi
Et ce sont les connaissances que les producteurs eux-mêmes fournissent.
Alors,
il y a un problème aussi de juger parti.
C'est exactement comme pour le médicament. C'est structurel, c'est-à-dire... Bien sûr, on peut toujours dire que ces dossiers de demande d'homologation, ils sont biaisés puisque c'est les industriels qui les fournissent. Alors, bon, d'abord, premier élément, évidemment, ils sont encadrés par un certain nombre de règles. C'est vrai qu'ils sont discutables par ailleurs, hein, mais enfin, faut pas imaginer non plus que c'est tout et n'importe quoi qui peut être fourni par les industriels dans les dossiers de demande d'autorisation. Par ailleurs, si ce ne sont pas les industriels qui financent les recherches sur la dangerosité de leurs produits, en fait, personne ne va le faire. C'est exactement, encore une fois, comme pour le médicament. C'est-à-dire, si vous supprimez la subvention massive de l'industrie pharmaceutique à l'évaluation des risques des produits médicamenteux, bah, tout le système s'écroule. C'est pareil pour les pesticides. Alors, on peut estimer que c'est extrêmement problématique, hein, mais c'est pas un problème d'ordre moral. C'est le fonctionnement du système est comme ça. Voilà. Par ailleurs, il y a donc un certain nombre de règles qui encadrent ces évaluations des risques. Et ces règles, elles ont à la fois des vertus, parce qu'elles sont censées garantir que l'industriel peut pas fournir tout et n'importe quoi comme données, et en même temps elles sont très contraignantes parce qu'elles empêchent les évaluateurs de risque, et donc les agences que vous avez citées, l'EFSA, l'ANSES, d'avoir les mains complètement libres au moment d'imaginer la bonne manière d'évaluer les risques. En réalité, elles sont prises dans un certain nombre de contraintes qui sont liées aussi au caractère très transnational de ces règles. C'est pas la France qui, dans son coin, va déterminer ses propres règles. Il y a un encadrement très fort au niveau européen. Mais il y a également une forte harmonisation au niveau international. Et toutes ces conventions, elles pèsent lourdement sur la capacité des évaluateurs de risque à prendre en considération les données disponibles. Et c'est très coûteux de les remettre en question pour les rendre plus conviviales, plus souples, plus ouvertes aux données multiples qui sont aujourd'hui produites sur les pesticides et leurs dangers.
Et il y a notamment un problème que vous soulevez dans votre livre, qui est que les industriels se basent sur l'usage du produit en mode comme si le produit était toujours utilisé conformément au mode d'emploi. C'est-à-dire que l'agriculteur, l'agricultrice serait parfaitement protégé et utiliserait le produit exactement comme il est indiqué sur la notice. Ce qui est évidemment à côté de la réalité, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Fabrice Chaboch, mais là-dessus, justement, moi, je me suis interrogée. Déjà, pourquoi est-ce que les équipements individuels de protection ne sont pas bien portés, ne sont pas bien utilisés? Est-ce que c'est effectivement fréquent?
Là aussi, il faudrait faire un peu d'histoire, hein, mais effectivement, c'est la base de la régulation des pesticides, c'est-à-dire définir, c'est pas nier que les produits sont dangereux, mais c'est définir les conditions auquel cette dangerosité va être acceptable, c'est-à-dire le niveau de risque va être faible à nul pour les utilisateurs et pour tous ceux qui y sont exposés. Le problème, c'est que c'est très théorique la manière dont est défini ce risque acceptable. Et effectivement, ça repose sur des hypothèses assez lourdes sur l'efficacité des équipements de protection que peuvent porter les agriculteurs, des gants, des combinaisons, sur l'efficacité, mais aussi l'effectivité, c'est-à-dire ce que ça va être vraiment porté. Et en fait, ces hypothèses-là, dans la réalité, elles s'avèrent assez approximatives, voire complètement erronées. L'efficacité, d'abord, il ne s'agit pas de dire que ces gants, ces combinaisons ne sont pas efficaces, mais les conditions auxquelles ils sont efficaces, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient neufs, systématiquement lavés, jetés quand ils sont un peu abîmés, c'est très éloigné des conditions de travail, des conditions réelles d'usage du matériel agricole. Voilà, donc on n'est pas du tout certain que les choses soient faites conformément à ce qui est précisé sur les étiquettes. Mais même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas du tout évident de tout au long d'une carrière, systématiquement, au cours de chaque traitement, de tout bien faire conformément à ce qui est prévu sur les étiquettes. C'est très compliqué. Je prends un exemple tout bête, mais c'est pas évident du tout d'aller porter une combinaison quand on va travailler dans une situation de forte chaleur, mais exposé à un produit de traitement.
Et par ailleurs, c'est peut-être aussi une vision un petit peu réductrice des dégâts que peuvent causer les pesticides, parce que là, du coup, on ne s'attache que à la population qui travaille avec les pesticides, donc en l'occurrence les agriculteurs, mais on ne parle pas et on n'évalue pas la dangerosité sur les populations voisines, les riverains, les riveraines.
Alors, ouais. On l'évalue, hein. Ouais. Y a une partie de l'évaluation des risques qui est consacrée aux riverains, aux résidents, pour prendre la catégorie indigène bureaucratique de l'évaluation des risques. Mais il est vrai que c'est un aspect, notamment la question de la santé des riverains exposés aux pesticides, sur lequel on manque cruellement de données, là, pour le coup, et notamment en épidémiologie. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de flou autour des garanties qu'apporte l'évaluation de risques et l'autorisation de mise sur le marché en termes de protection des riverains. Voilà. Après, je pense qu'il faut jamais perdre de vue que la population humaine la plus exposée de loin, c'est les agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger pour les riverains, hein, en tout cas, pour les agriculteurs, on est certain déjà, du point de vue de la connaissance épidémiologique, même s'il y a beaucoup à découvrir encore, que oui, les pesticides, l'exposition professionnelle aux pesticides, c'est un facteur de risque pour des pathologies chroniques extrêmement préoccupantes.
Fabrice Chaboch, là-dessus, sur l'équipement individuel de protection et sur l'exposition de votre profession à ces produits?
Oui, c'est certain. C'est vrai que dans le film que je vous invite à regarder, qu'a fait Isabelle Véron sur la bourse Le Glyphosate et moi, je dis que
à chaque fois. Que...
Oui, voilà, j'en profite. Hein. Je dis que effectivement, à chaque fois que j'utilise ou que je prends un pulvérisateur, je m'expose. Alors, les protections, parlons-en effectivement. Je crois que à minima, c'est d'utiliser un masque, une protection du visage et puis des gants, bien évidemment. Au moins lors de la préparation, ça, je vous assure que tout le monde le respecte et toute sa carrière, en tout cas aujourd'hui, les jeunes, peut-être les moins jeunes, sont beaucoup plus coulants et ça, je l'ai vu, donc je peux vous le dire. Après, effectivement, au champ, où on est moins exposé directement, la combinaison, il est évident que c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas garder. Alors s'ils la gardent, bah, c'est une aberration parce que elle peut être chargée en pesticides dans le tracteur, donc on contamine tout son habitacle. Et puis si on n'en a pas, bah, normalement on est protégé par des filtres qui sont assez puissants. Mais je rejoins Monsieur Jouzel, effectivement, on n'est pas dans un climat de sécurité permanente. Ça, voilà. Et pourtant, j'aimerais ici défendre les gens qui utilisent tous ces produits parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais il faut savoir qu'on est dans des conditions, on utilise des produits de laboratoire, de salle blanche, et puis on est en extérieur, donc effectivement, c'est assez incompatible. Je rejoins là-dessus. Ouais.
Alors, on s'arrête deux secondes pour regarder justement un extrait du documentaire que vous avez évoqué, donc film qui s'appelle « Labos, le glyphosate et moi », film d'Isabelle Véron, produit par la boîte de production Camera One Télévision. C'est un film dans lequel vous apparaissez vous-même, Fabrice Chaboche, mais là, on va voir un autre agriculteur qui travaille pas très loin de chez vous.
Je suis ferme défi. Donc le challenge des fermes défi, c'était de démontrer qu'on pouvait être aussi compétitif en réduisant de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires, dont le glyphosate. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Je compare tous les ans, puis j'y tiens parce que je veux être sûr de rester dans le vrai. Je compare avec mes collègues agriculteurs, avec les comptes du centre de gestion, donc il n'y a pas moyen de tricher. Et je suis toujours pareil en termes de compétitivité, j'ai les mêmes marges à l'hectare.
Parce que ça te coûte moins en produits.
Mais parce que j'ai un peu moins de rendement, mais j'ai moins de produits phytosanitaires, j'ai moins de coûts de production. Donc la marge au bout, c'est voilà, hein, c'est le produit moins les charges. Et ben, au bout du compte, c'est pareil. J'ai un peu moins de produits, mais j'ai un peu moins de charges. La marge est bonne.
Et tes collègues qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils pensent de ton discours?
Le discours que j'entends assez régulièrement, c'est « C'est très bien, c'est vachement bien ce que tu fais. » Par contre, moi, chez moi, je pourrais pas parce que j'ai des trop mauvaises terres. Et puis l'autre, il va me dire, moi, je peux pas parce que j'ai des trop bonnes terres, j'ai un trop gros potentiel, donc je pourrais pas faire ça. Et finalement, tout le monde a plein de bonnes raisons pour pas faire.
Fabrice Chabot, je reviens vers vous. Alors, est-ce que c'est possible, comme votre confrère, de diminuer effectivement, voire de supprimer, puisque c'est quand même ça le but, de supprimer l'usage des pesticides et d'obtenir les mêmes rendements, la même productivité?
Non. Non, je vous assure, c'est pas possible. Après, vous savez, nous agriculteurs, on est des chefs d'entreprise, donc notre objectif, c'est la marge en fait dégagée, hein, voilà. Et effectivement, on a un effet ciseau en fonction des produits et du coût des produits, des intrants, ce qu'on appelle des intrants tout globalement. Il y a les engrais également, leur coût, on peut les diminuer. Il y a des choses qui sont diminuables, il y a des choses qui sont supprimables. Et c'est des pratiques agronomiques qui prennent plusieurs années. Par exemple, un produit très facile à supprimer en fait dans du blé, c'est ce qu'on appelle un raccourcisseur. Un raccourcisseur, ça a été fait pour faciliter la récolte, pour éviter en fait certaines années où le blé tombe et soit difficile à récolter. Et en plus, qui génère des pertes de rendement. C'est un produit qui coûte peu cher. Et qui est en fait une matière active assez dangereuse. Moi, c'est un des premiers produits que j'ai supprimé. Voilà. Donc, quand cet agriculteur parle d'agriculture intégrée, c'est vraiment de se dire voilà, on travaille avec la nature. On intègre un certain nombre de paramètres, notamment diminuer les doses d'engrais azotés en particulier, pour moins exposer en fait les plantes cultivées aux maladies. Travailler sur des densités de semis, travailler sur un certain nombre de paramètres agronomiques qui vous perdraient, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font diminuer. Mais au-delà d'un certain seuil, pour le pratiquer depuis, ça fait 20 ans que je suis installé pour le pratiquer depuis très très longtemps, pratiquement depuis le début dans plusieurs groupes d'agriculteurs, à part passer en agriculture biologique et donc s'ouvrir à un autre marché conventionnel, on atteint ses limites.
Voilà. Et donc vous, effectivement, il faut le préciser, vous êtes toujours en conventionnel, vous êtes céréalier, si je ne me trompe pas, et vous avez quand même diminué significativement l'usage des produits chimiques sur votre exploitation. Et vous constatez autour de vous, d'après les échanges qu'on avait eus avant l'émission, autour de vous, des agriculteurs qui sont dans la même démarche que la vôtre.
Oui, tout à fait. Alors moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans un groupe défi régional grande culture, ce qu'on appelle grande culture, c'est-à-dire effectivement, je fais du blé, de l'orge, du colza, des pommes de terre aussi. J'ai des rotations assez variées. Et dans ce cadre-là, et du coup, je rejoins un petit peu ce que mon interlocutrice tout à l'heure disait, c'est que quand l'animation est bien faite, en fait, on arrive à évoluer, à avoir des pratiques, en fait, en plus rassurer en groupe, pour diminuer un certain nombre de produits. Des déclics, on en a sans arrêt, en fait, dans ces 10 ans. On est un des plus vieux groupes défis en France, avec la même animatrice. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'en termes d'animation, ça n'a pas toujours été le cas dans tous les départements, dans toutes les régions. Par ailleurs, et sans vouloir prendre toute la parole, mais par ailleurs, on est dans mon secteur, on est dans un périmètre de une aire d'alimentation en eau potable, un périmètre de captage Grenelle. Et donc, là aussi, avec tous les agriculteurs du secteur, il y en a 120 sur 7000 hectares, eh bien, on avance. Je dis pas que les 120 agriculteurs avancent au même niveau. Mais les 120 agriculteurs ne sont pas prêts à tous aller en bio. Je crois qu'il y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un pas en agriculture qui est compliqué. Déjà, on a un cycle d'un an. Donc, quand on fait des innovations, on a le résultat seulement au bout d'un an. Et quand on veut changer un système de production, c'est 10 ans. Voilà. Donc, le frein, en fait, tout à l'heure, la question était bien posée. Et le frein, il est quand même sur des aspects qui nous échappent. Le temps, le climat. Voilà, deux paramètres, en fait, très compliqués.
Ok. Vous pourriez peut-être nous donner une idée de l'ampleur de la baisse des pesticides que vous avez réussi à mettre en œuvre sur votre ferme?
Alors, on en parlait récemment dans un groupe, on est à 30% de diminution.
D'accord.
En 30% de diminution.
En combien d'années?
En fait, moi, j'étais conseiller agricole. Alors, vous savez, oui. Les leviers agronomiques, je les connaissais. Donc, quelque part, je suis parti presque tout de suite comme ça. Bon, après, il a fallu ajuster parce qu'entre la théorie et la pratique, d'ailleurs, c'est bien pour ça que maintenant, je suis plutôt dans la pratique que dans la théorie. Mais il y a quand même des diminutions incompressibles. Après, il y a vraiment un gros changement de système, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des agriculteurs en bio. Je connais beaucoup de gens qui ont diminué leurs produits phyto, qui sont ensuite partis en bio et qui ont vu les limites en fait du passage en bio, parce que c'est des gens qui avaient arrêté de labourer, qui ne travaillaient plus leur terrain pour éviter les pertes en azote. C'est très technique, mais et aujourd'hui ils relabourent, ils passent beaucoup de temps sur le tracteur et c'est compliqué. Voilà, j'insiste là-dessus parce que on imagine, alors je sais pas. C'est sans doute un raccourci, mais que aller en agriculture biologique, donc de plus utiliser de produits phytosanitaires, ça se fait dans un claquement de doigts. Alors il faut 10 ans, voilà. Il faut au moins 10 ans, et puis avec un système bien étudié. Et là, c'est vrai que les pouvoirs publics ont tout leur rôle à jouer. Monsieur Jouzel a raison. Il y a beaucoup de choses qui se savent. Il y a beaucoup de choses en pratique sur le terrain qui se font. Et il faut simplement transmettre toutes ces connaissances. Et là, c'est la vraie question.
Donc il y a un enjeu énorme de formation, si je comprends bien.
C'est pas de la formation, si je peux me permettre. C'est vraiment de l'animation de l'expérimentation, et puis mes grandeurs nature, et puis de l'échange, beaucoup d'échanges. Mais l'échange, c'est comme tout à l'heure, notre paramètre incompressible, c'est du temps.
Oui, évidemment. Je me tourne vers vous, Caroline Faraldo. Donc, pour revenir un petit peu sur ce rapport que la Fondation Nicolas Hugolot a publié récemment, Justement, vous pointez du doigt le rôle des pouvoirs publics dans cette transition, et effectivement qui demande du temps, de l'argent et de la transmission. Un chiffre quand même important que vous mentionnez dans ce rapport et qui me semble important de mentionner ici, votre enquête, elle aboutit sur le fait que seulement 1% des financements publics alloués à l'agriculture, qui s'élèvent tout de même à 23 milliards d'euros chaque année, contribuent donc effectivement à la baisse des pesticides. Alors, c'est un échec, c'est plus qu'un échec, c'est une impasse si on s'arrête sur ce chiffre-là.
Oui, et je vais peut-être revenir tout d'abord sur ce que disait Fabrice, c'était très, très important pour bien comprendre. Effectivement, et je crois que c'est un rapport de l'INRA qui le dit, si on veut atteindre les objectifs de division par deux de l'usage des pesticides au niveau national, après je suis d'accord avec Fabrice que si on a globalement une augmentation de l'usage au niveau national, ça va dépendre des régions et ça va dépendre des types de production, on pourra y revenir, et notamment, j'ai revérifié, mais sur le Centre-Val-de-Loire, c'est plutôt un des territoires qui a vu une diminution de l'usage, contrairement aux zones grandes cultures et viticoles. Mais effectivement, si, donc selon l'INRA, si on veut atteindre cette division par deux, il faudrait vraiment enclencher une transformation de système. Et comme le disait Fabrice, sinon on arrive effectivement sur des diminutions de 30% et puis ça commence à devenir incompressible. Et qu'est-ce que ça veut dire une approche systémique, enfin de la transformation de la façon dont on travaille? C'est vraiment des pratiques trop complexifiées. Il va falloir expérimenter. Comme disait Fabrice, c'est du temps, c'est de l'échange en collectif. Ça va être remettre en place des infrastructures agroécologiques qui sont peut-être plus là, des haies, des arbres. Ça peut être des bandes enherbées, enfin tout ça, ça prend du temps. Il va y avoir également le fait d'introduire, de rediversifier, de réintroduire des rotations culturelles, de produire peut-être plus de types de production. Donc tout ça, ça se réapprend. C'est coûteux, c'est risqué, et donc effectivement, il faut qu'il y ait derrière ça, on va dire une rémunération déjà par rapport à cette diversification, ce maintien ou ce développement d'infrastructures agroécologiques qui n'est pas le cas actuellement, et également accompagner dans cette conversion qui peut prendre jusqu'à 10 ans, donc via par exemple des contractualisations de 5 à 7 ans. Il faut des débouchés économiques qui existent si on commence à demander c'est pas que un commencement, la plupart de la population française par exemple demande des produits issus de pratiques, enfin de systèmes agroécologiques, dont bio, hein, mais qui utilisent moins de pesticides. Mais derrière, il faut effectivement arriver à structurer des filières pour qu'il y ait vraiment des débouchés pour ces agriculteurs. Voilà, il y a tout ça, tout cet écosystème qu'il faut mettre en place, et les politiques publiques sont extrêmement clés là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce rapport. Et effectivement, après un an d'analyse, on a déjà voulu quantifier quel était le montant des financements publics qui allaient aux acteurs de l'alimentation, quel était le montant des financements privés également, quel le rôle des banques, des coopératives agricoles, donc tout ça bien sûr à un niveau, à un maillage très national, et effectivement tout d'abord donc cartographier et ensuite analyser. Cartographier, on s'est rendu compte qu'il y avait 23 milliards d'euros par an qui allaient aux acteurs de l'alimentation.
De l'agriculture et de l'alimentation.
Ouais, oui, exactement. Donc industrie, oui, agroalimentaire, oui, compris coopérative agricole, mm-hmm, pas que les agriculteurs. Et sur ces 23,2 milliards d'euros, c'est important. C'est de l'argent qui est sur la table et qui représente environ 10% du chiffre d'affaires des produits de l'aliment, enfin produits de l'alimentation vendus en France. Et sur ces 23,2 milliards d'euros, on a 11% de ces financements qui ont une intention à la réduction de l'usage des pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en général accolé à des politiques publiques qui vont avoir comme objectif de réduire l'usage des pesticides. Mais derrière ça, sur ces 23,2 milliards d'euros, on a uniquement 1%, moins de 1% même, de ces financements qui ont vraiment un impact avéré sur la réduction de l'usage des pesticides. Côté financement privé, on est à peu près sur les mêmes mannes financière, hein, 19,5 milliards d'euros. Et là-dessus, on a constaté également que la quasi-ensemble de cet argent n'a pas de critères de durabilité. Et à titre d'exemple, si on regarde du côté des emprunts bancaires, 85% des emprunts bancaires qui vont aux industries agroalimentaires, vos industries agroalimentaires de moyenne et de grande taille, qui, par exemple, font très minoritairement leur chiffre d'affaires sur des produits bio ou des produits agroécologiques, donc moins de 7%, par exemple, si on regarde Lactalis. Donc ça, c'était extrêmement important. Et derrière ça, les conclusions, c'est de se dire, il y a vraiment... depuis 10 ans, des politiques publiques qui fixent des objectifs, mais qui ne donnent pas les moyens pour accompagner cette transition qui se base sur une recomplexification du travail agricole également, et surtout donc et derrière ça la responsabilisation des autres acteurs de l'alimentation et d'arrêter de pointer du doigt les agriculteurs sur cette impasse dans laquelle on est.
Mais justement, sur le rôle des pouvoirs publics, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on a un cadre, on a un plan depuis plus de 10 ans. On a le plan Ecophyto qui a été mis sur pied en 2008. À l'époque, c'était le Grenelle de l'environnement, je crois. Et puis ensuite, il y a eu le plan Ecophyto 2, le plan Ecophyto 3. Enfin, il y en a eu plusieurs, en tout cas plusieurs versions. D'ailleurs, dans votre enquête, vous parlez de cela comme une tuyauterie financière qui ne permet pas à l'agriculture française de remporter la bataille du vivant. Voilà, on est 13 ans plus tard. Effectivement, ce plan, c'est quoi? C'est une coquille vide?
Je l'appellerai pas une coquille vide. Effectivement, sur les 23,2 milliards, le plan Ecophyto a la gestion environ 0,3% de ses financements. Donc effectivement, elle a pas la main. Le plan Ecophyto n'a pas la main. Par contre, il a le mérite d'avoir posé des objectifs, de nous faire discuter de temps en temps et d'avoir peut-être mené quelques expérimentations. Vous parlez des fermes défis. Ce n'est pas négligeable, mais ça reste vraiment de l'ordre de l'expérimentation. Derrière ça, tout le reste de la tuyauterie financière échappe au plan Ecophyto, donc on a une vraie incohérence entre ce qui se fait à très petite échelle, parce que les fermes défis, finalement, il n'y en a pas beaucoup, et derrière ça, on n'arrive pas à remassifier les résultats sur le territoire national. Donc c'est pas forcément une coquille vide, mais en tout cas, effectivement, un non-contrôle de ce qui se passe et de où va l'argent et de comment utiliser l'argent. Un des principaux outils, finalement, de politique publique pour réduire l'usage des pesticides, ce n'est pas le plan Ecophyto, ça va être la politique agricole commune. C'est 9 milliards d'euros par an. On est en pleine révision actuellement et il n'est pas prévu de réaligner les objectifs du plan Ecophyto avec la politique agricole commune comme on la pressent.
Oui, et là on y reviendra peut-être si on a le temps tout à l'heure, mais effectivement la nouvelle PAC qui se prépare à Bruxelles, là aussi il y a beaucoup d'attentes et pour l'instant elle ne répond pas tellement sur des critères disons audacieux en termes de réduction de l'usage des pesticides. Je reviens encore un instant sur votre rapport puisque vous parlez également d'une frange d'agricultrices et d'agriculteurs qui utilisent eux de plus en plus de pesticides, ce qui paraît incroyable. On comprend pourquoi on peut stagner ou pourquoi on ne diminue pas aussi vite que l'on souhaiterait, mais il y a quand même une partie du monde agricole qui est en phase ascendante encore aujourd'hui. Qui sont ces personnes et pourquoi continuent-elles, augmentent-elles même leur usage de pesticides ?
Oui, effectivement. Donc, de par notre méthodologie, on a pu établir 3 groupes. Donc le groupe des plus utilisateurs de pesticides, le groupe des moins utilisateurs de pesticides et un groupe, on va dire, médian qui représente vraiment la majorité des agriculteurs, 67%, où là on voit que la consommation de pesticides n'a globalement pas changé depuis 10 ans. Par contre, effectivement, ce qui a été extrêmement surprenant en voyant ces résultats, c'est de se rendre compte que les plus utilisateurs de pesticides, qui représentent environ 10% des exploitations agricoles, était le groupe qui avait le plus fortement cru, en fait, en termes de surface agricole utile, c'est plus 69% en 10 ans. En termes d'exploitation, c'est plus 34%. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est un modèle, et c'est ce qui explique pourquoi finalement cette consommation des pesticides augmente. Elle augmente du fait d'une poignée d'agriculteurs. Ensuite, on a un autre groupe qui est le groupe des moins utilisateurs de pesticides, qui représente environ 30% des exploitations agricoles, va croître également, mais beaucoup plus lentement. Donc, on est à plus 11% de surface agricole utile en 10 ans. Et donc là, on a pu revérifier finalement ce que disait la littérature de la dualisation en cours de l'agriculture entre finalement une voie qui va être une voie à vocation exportatrice, ou en tout cas qui base la compétitivité quasi exclusivement sur la question du prix, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la décommoditisation et une tendance à vouloir
c'est-à-dire
diversifier.
C'est-à-dire la décommoditisation, est-ce que vous pouvez préciser ?
C'est-à-dire valoriser la production non pas uniquement par, avoir une compétitivité non pas uniquement par le prix, mais par la façon dont on produit, par une diversification, on va dire, de la stratégie économique. Et donc là, on est à une croisée de chemin très importante. Parce qu'on se rend compte que ce groupe majoritaire des 67%, lui, est en perte de vitesse et va être finalement à devoir décider entre deux modèles. Et donc, on a très peu de temps maintenant pour essayer de tout mettre en œuvre pour donner une vision vers la diversification et la transition agroécologique pour une grande majorité d'agriculteurs. Avec un gros challenge que nous avons également, c'est que dans 6 ans, on a 45% des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite. Et pour l'instant, deux exploitations sur 3 sont reprises. Donc on a quand même la population agricole est en déclin, ce qui est extrêmement dramatique. Et les politiques publiques doivent rallier et travailler vraiment sur la valorisation, la rémunération juste des agriculteurs et cette valorisation et assurer ce renouvellement des générations à venir, notamment sur la transition.
C'est un vaste sujet sur lequel on reviendra évidemment dans Mediapart, puisqu'il y a effectivement ce problème du renouvellement des générations. Ceci dit, moi j'ai l'impression que dans le cas de reprise d'exploitation agricole, justement, il y a de plus en plus de gens qui s'installent directement en bio et que ce passage de génération est aussi un passage de méthode agricole et une volonté en tout cas de plus en plus de changer de système. Je ne sais pas si vous le percevez également dans votre travail.
Effectivement, ça se perçoit et on se rend compte qu'il n'y a pas que des très jeunes qui veulent s'installer. Donc, c'est plutôt aussi un bon signe, mais ça reste en quantité trop faible.
D'accord.
Alors, on comprend aussi par le fait, et c'est là où c'est très problématique, on est obligé d'activer des leviers de financement public parce que on a actuellement en 2018 jusqu'à 70% du revenu agricole qui peut provenir des soutiens publics. On a un marché agricole qui ne rémunère pas justement les agriculteurs. Donc là, il y a vraiment ce challenge à travailler là-dessus.
J'en profite pour rappeler quelques chiffres importants, quelques objectifs. Vous l'aviez mentionné en tout début de débat. La France s'est donné pour objectif une diminution de 50% des pesticides à horizon 2025. C'est demain. L'Union européenne a fixé le même objectif, mais pour 2030. On a également comme objectif 15% de la surface agricole totale devrait passer en surface agricole biologique en 2022. C'est l'an prochain. Actuellement, on est autour de 8%. Donc voilà, les enjeux sont énorme. L'Union européenne, elle, a fixé cet objectif à 2030. En 2030, pour l'Union européenne, 25% de la surface agricole totale devrait être passée en biologique. Je signale également l'exemple de la Suède, qui, elle, a réussi à réduire de 23% ses ventes de pesticides depuis 2011. Donc, on peut y arriver. Fabrice Chaboch, est-ce que dans votre quotidien, vous avez conscience de ces chiffres-là qui semblent nous dépasser un petit peu ? Quelle piste, vous, si vous étiez, mettons, ministre de l'Agriculture, quelle piste, justement, vous mettriez en avant pour arriver à ces objectifs qui, donc, nous attendent demain ?
Ouais, il faut déjà se placer pour 2022, c'est ça, pour trouver le nouveau ministre ?
Ouais.
Ah, d'accord. Je crois qu'il a beaucoup de travail. C'est peut-être trop pour moi. Non, mais ces chiffres, je les note tous, effectivement, j'en connais la plupart. Maintenant, c'est vrai que, oui, moi j'en ai conscience, c'est sûr. J'en ai conscience, et d'autant qu'on nous le... C'est des chiffres, enfin, pour les plus connus, qui sont écrits et lus partout, et c'est vrai que les agriculteurs qui ont le sentiment de faire bien, alors peut-être même ces 67% là, chiffre que je découvre, ils ont ce sentiment d'être coupables en permanence, et en fait nous dans nos groupes c'est plutôt l'inverse, on montre qu'on peut faire des choses, on montre que justement il y a un cycle vertueux en place. Vous aurez toujours des irréductibles, et puis ceux-là ils vont se renouveler d'eux-mêmes, en fait ils vont disparaître, mais c'est vrai que j'ai le sentiment Moi, je suis administrateur d'une coopérative. Et à chaque conseil d'administration, on nous montre les chiffres en fait des produits phytosanitaires. Alors, je suis administrateur pourquoi ? Parce que je veux faire entendre ma voix justement de changement qui est inéluctable et qui est nécessaire pour la société, mais aussi pour nos agriculteurs. On parlait tout à l'heure de protection, enfin de ces cancers, tout ça dans la profession agricole. Donc c'est nécessaire, mais on l'a vu, cette diminution. Alors peut-être qu'en Centre-Val de Loire, on a peut-être plus cet effet. Peut-être qu'il y a peut-être plus de conscience, j'en sais rien. Mais on l'a vu. Mais je vois pas aujourd'hui avec... Je vous assure que ça fait 20 ans que je travaille et je passe beaucoup de temps dans alors des réunions constructives. Hein, parce que souvent, on a des réunions où on n'a pas envie d'être. Mais là, c'est pas le cas. Des réunions de terrain, des réunions où on avance. J'étais encore hier sur une réunion pour construire en fait un schéma, et toujours dans le cadre du périmètre de protection en eau potable, permettre des schémas de financement pour justement ce cycle vertueux. Alors je ne rentre pas dans les détails, c'est très technique, mais ça s'appelle les paiements pour services rendus à l'environnement, les PSE, voilà, qui pour l'instant sont financés par l'Agence de l'eau, voilà, argent public.
Et via la PAC aussi, il y a des financements PAC qui arrivent dans ce...
Et voilà, qui vont effectivement. Tout à l'heure, vous disiez, je sais plus qui disait en fait que la PAC n'allait pas forcément dans ce sens-là. Alors ça fait peur à beaucoup d'agriculteurs. Moi, je trouve que c'est plutôt un atout parce que enfin, on va avancer. Et c'est des choses pas compliquées à faire. Alors oui, il faut réintroduire parfois des ce qu'on appelle des éléments de paysage, hein, des choses comme ça, surtout en Beauce. Mais je vous assure que quand vous traversez la Beauce, et je vous invite à le refaire plutôt en sortant des routes, des grandes routes, où vous voyez des haies, vous voyez des arbres, il y a l'agroécologie est partout, l'agroforesterie arrive. Dans mon village, il y a un jeune là qui a planté des noyers, et il y a du colza entre. Je suis en Beauce, quoi. Et donc, je suis rassuré. Et c'est pour ça, c'est un peu le message que je veux transmettre. Au-delà des chiffres, qui sont, voilà, ils ont été très décriés, ces chiffres. Il y a des, bon, je veux pas rentrer dans la polémique, on pourra en discuter avec Géraldine tout à l'heure, mais plus tard, en aparté. Mais je pense que les choses avancent et que les mentalités, comme je disais au début, sont prêtes. Et je vous assure qu'on fait, enfin, en tout cas, moi, je fais tout pour que ça évolue.
Ok, les mentalités évoluent. Il y a quand même, comme on l'a vu avec les chiffres, vraiment du chemin encore, beaucoup de chemin à parcourir. En Beauce, il y a aussi des endroits quand même qui ont été dévastés, où il n'y a plus justement ces haies et cette végétation, même si, comme vous le soulignez, Fabrice, heureusement, certains agriculteurs reviennent sur ces pratiques-là. Mais effectivement, le tableau, je crois qu'on peut dire que le tableau est contrasté. Jean-Noël Jouzel, peut-être pour terminer, est-ce que vous aussi, dans votre travail, vous abordez cette question du renouvellement des générations et de la difficulté du monde agricole à évoluer dans ses pratiques et aussi la difficulté pour les jeunes d'aujourd'hui de reprendre des exploitations agricoles?
Ouais, alors moi, j'ai pas tellement travaillé sur le renouvellement des générations d'agriculteurs. Par contre, j'ai un peu travaillé sur la question du changement. De manière un peu indirecte, parce que moi, une partie de mon travail a consisté à essayer de retracer les parcours d'agriculteurs qui ont essayé d'obtenir des reconnaissances de maladies professionnelles en lien avec leur exposition aux pesticides. On s'est rendu compte dans cette enquête que c'est un parcours souvent long, difficile, jalonné d'une série d'étapes qui n'est jamais tout à fait la même d'ailleurs, mais qu'il y a forcément un moment où se pose la question de continuer ou arrêter les pesticides. Et ce dont on s'est bien rendu compte, c'est que c'était jamais évident de dire « ah ben, je suis malade, donc j'arrête les pesticides ». Ça ça va pas de soi, pour une série de raisons qui ont été énoncées par Fabrice notamment. Enfin, on voit bien, voilà, passer en bio par exemple, c'est pas forcément simple. Ça simplifie pas les conditions de travail. Alors ça expose moins à des produits dangereux. Encore qu'il y a des pesticides en bio aussi, hein, faut le rappeler. Ils ont pas la même nature, mais voilà, les pesticides, c'est des produits qui se sont diffusés aussi pour des raisons pour des bonnes raisons, des raisons économiques. Les pesticides, ils fonctionnent comme une assurance pour les agriculteurs. C'est aussi pour ça qu'il y a des agriculteurs qui continuent à en utiliser de plus en plus. C'est aussi parce que l'agriculture se capitalise, continue à se concentrer, continue à se moderniser et à s'industrialiser. Et dans ce schéma-là d'agriculture, les pesticides sont un élément fondamental, parce que c'est un élément qui apporte ce dont le capitalisme se nourrit, c'est-à-dire un peu de prévisibilité sur l'avenir. Donc c'est compliqué de s'en passer. Mais à un niveau beaucoup plus de l'agriculteur moyen, bah, les pesticides aussi sont diffusés dans les années 50-60 jusqu'à la fin du 20e siècle. Aussi parce qu'ils apportaient un certain confort de travail. C'est quand même difficile de renoncer à ça quand on a fait un chemin sociologique important par rapport à la génération d'avant. C'est des conditions de travail qui étaient quand même grandement simplifiées pour les générations d'agriculteurs de la fin du XXe siècle par comparaison avec ceux du milieu du XXe siècle. Voilà, donc on en est encore là aujourd'hui. Ça, c'est compliqué de se passer de produits parce qu'ils sont aussi bien pratiques.
Merci. Merci à tous les trois. Effectivement, on reviendra dans Mediapart sur toutes ces questions de transition agroécologique parce que ce n'est pas simple, mais ça peut être aussi créateur d'emplois parce que effectivement revenir à plus de mécanisation, ça peut être revenir à plus de pénibilité, mais ça peut aussi permettre de créer des emplois. On y reviendra. Évidemment, ce sont des questions complexes. Merci à tous les trois d'être venus et d'avoir participé à cette discussion. À bientôt dans Mediapart.